France Culture.
Quentin Lafay, à voix nue.
Nicolas Sédoux, président de Gaumont.
Aujourd'hui, premier épisode, quand le cinéma devient de famille. Bonjour Nicolas Sédoux.
Bonjour.
Avant de commencer cet entretien, vous avez fait plusieurs allers-retours dans cette pièce où nous nous trouvons, on la décrira dans quelques instants. Et vous êtes la dernière fois venu chargé de tournevis, notamment pour réparer cette fenêtre qui était entrouverte, qui abîmait la qualité du son. Et vous m'avez dit, je suis d'une génération bricoleuse et plus bricoleuse que vous, vous me regardiez, puisque nous n'avons pas le même âge. Est-ce que vous êtes encore bricoleur aujourd'hui ?
Alors écoutez, j'avais un grand-père qui était centralien, mais face à ses petits-enfants, il commençait pas à nous faire des cours que nous aurions été totalement incapables de comprendre. Il nous montrait comment, comment on change un pneu, comment on remet la chaîne sur le pédalier. Je crois que quelque part, il nous a passé ça. Moi, j'appartiens à une époque où d'abord, quand je suis adolescent, c'est quand même l'immédiate après-guerre, on passe son temps à réparer. Et donc, celui qui bricole pas un tout petit peu, il est là avec sa bicyclette qui est plantée, et puis il a plus qu'à pousser sa bicyclette. Donc, j'aime bricoler.
On se trouve dans une salle particulière, c'est la salle du conseil d'administration de Gaumont que vous présidez. Cette salle est particulière parce qu'elle est faite de boiseries, on est encerclé de dessins de plantus, des dessins qui ont trait chaque fois, ou en tout cas dans la majorité des cas, au cinéma. Qu'est-ce que représente cette salle pour vous lorsque vous pensez à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, qui étaient aussi, comme vous, des entrepreneurs, qui étaient aussi, comme vous, des gens qui avaient le goût du risque et de l'entreprise, mais qui étaient dans un secteur tout à fait différent, dans des secteurs d'ailleurs tout à fait différents?
Quand je suis arrivé pour la première fois dans cette salle, il n'y avait pas de fenêtre. Disons-le, elle était particulièrement triste. Finalement, Gaumont n'a pas déménagé, mais quand les comptes ont été convenables, on a essayé d'aménager cette pièce le mieux possible, et notamment en y remettant les boiseries du bureau de Léon Gaumont. Alors, le point commun avec mes grands-parents entrepreneurs, je vous ai parlé rapidement de mon grand-père tout à l'heure, c'était un ingénieur, Marcel Schlumberger, donc mon grand-père, le père de ma mère. C'est le fils d'industriel alsacien. Un étonnant cocktail, puisque, oui, des entrepreneurs, donc des Alsaciens qui ont une fabrique des machines à tisser. Des machines à tisser qui sont considérées comme les meilleures de leur temps. Et ceux dont je vais parler, c'est donc la génération de mes grands-parents. Ils ont une mère qui est une femme tout à fait extraordinaire, puisqu'elle va être la présidente du mouvement féministe français, et même qu'on lui offrira d'être présidente du mouvement féministe international, ce qu'elle refusera, estimant que sa santé est trop fragile, elle mourra effectivement quelques mois plus tard. Donc une femme très volontaire, et ses garçons, il y a une fille et cinq garçons, ils vont quitter l'Alsace pour ne pas faire leur service sous l'uniforme prussien. Donc, ce sont, au sens le plus vrai du terme, c'était même un statut, des bourgeois alsaciens, qui vont se retrouver, et moi j'entends tout à fait mon grand-père dire, arrêtons de penser, quand nous sommes arrivés à Paris, nous avons été bien accueillis, on se moquait de notre accent alsacien, etc. Et donc, il va y avoir une solidarité entre eux, tout à fait exceptionnelle. Sur les cinq garçons, il y en a un qui meurt assez rapidement. Le dernier, Maurice, il va fonder ce qui sera la banque Schlumberger, qui deviendra le Fritz Schlumberger, etc. L'aîné, Jean, il va cofonder avec Gide la NRF. La Nouvelle Revue Française, le grand sigle de la maison Gallimard. Et Conrad et Marcel, ils vont fonder ce qui deviendra Schlumberger Limited, qui est donc la première société de connaissance du sous-sol profond. Voilà. Et ça va très, très au-delà de la recherche pétrolière ou gazière. Donc, Conrad, il est simplement professeur à l'école des mines, et Marcel, il a fait centrale. Marcel, il a 5 ou 6 ans, je crois, il ne connaît pas bien sa composition, et il a l'idée de mettre de la glycérine dans les encriers de ses petits copains. Donc personne ne peut écrire, l'encre est figée, la composition est remise, bien. À 15 ans, il va inventer le changement de vitesse automatique. Tout le monde oubliera de déposer le brevet, mais enfin, voilà. C'est, au sens le plus noble du terme, un bricoleur.
Un inventeur même.
Oui, bricoleur, c'est pour ça que je disais au sens le plus noble du terme, si vous voulez. Pendant la guerre, il n'y a pas d'essence. L'essence, elle est réservée aux Allemands et aux services officiels. Et donc, il a une Sim 15-5 et une petite voiture, beaucoup plus petite qu'une deux chevaux. Il va la transformer en voiture électrique. Donc, ces deux-là, ils créent une société. Et ils vont créer ce qui deviendra Schlumberger Limited, une des grandes compagnies mondiales du secteur. Et évidemment, c'est le sens de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que ça signifie, l'entrepreneuriat? C'est très simple. Faut pas l'oublier. C'est une prise de risque. Donc ça, c'est l'origine du bricoleur. Mais j'ai une autre ascendance culturelle. C'est du côté de mon père. On est diplomate, on est haut fonctionnaire. Un grand-père qui a créé la direction économique du Quai d'Orsay, deux oncles ambassadeurs. Et moi, je pensais, étant sorti troisième de Sciences Po, que je devrais intégrer cette grande école. Et que cette grande école m'a refusé. Et à ce moment-là, j'ai dû faire un tournant à 180 degrés. Et c'est le côté entrepreneur, à ce moment-là, qui a dominé. Donc, j'ai ça dans mes gènes, avec toutefois une nuance, c'est que si évidemment mon intérêt est d'abord un intérêt pour Gaumont, c'est un intérêt général pour le cinéma, et au-delà du cinéma, un intérêt général pour la culture, et que j'ai essayé, quand j'ai quitté mes responsabilités opérationnelles chez Gaumont, de donner beaucoup d'attention à ce secteur.
Avant d'entrer de plein pied dans cette discussion, est-ce qu'on dit Gaumont ou la Gaumont? J'ai l'impression qu'il y a autant de solutions et d'avis que d'interlocuteurs.
Si vous parlez d'un cinéma, vous dites le Gaumont. Quand on parle de la société, on dit en général la Gaumont, on dit d'ailleurs parfois la Marguerite. Donc, et moi, j'aime bien l'idée que les sociétés soient féminines, comme en Grande-Bretagne le sont les bateaux.
Vous êtes né, Nicolas Sédoux, en 1939. Au tout début de la guerre, est-ce que de cette Seconde Guerre mondiale, vous avez des souvenirs identifiés? Et puis même, puisqu'on on va énormément parler de cinéma, est-ce qu'il vous reste des images de cette période-là?
Je suis né avant la guerre, je suis du 16 juillet, et la guerre est de septembre, il était temps que je naisse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a un mot que vous ignorez forcément, vous êtes beaucoup trop jeune, c'était un adjectif. Quand un produit était de qualité, on disait c'est un produit d'avant-guerre. Et l'enfant que j'étais, pour moi, c'était un mot, avant-guerre voulait dire de très bonne qualité.
Vous êtes de justesse un enfant de très bonne qualité?
Non, parce que à ce moment-là, c'est la conception qui compte. Donc, ils avaient encore 9 mois de tranquillité. Oui, bien sûr que j'ai des souvenirs. Quelqu'un l'a dit, et si on veut avoir une idée du Paris pendant la guerre, il faut voir La traversée de Paris, film de Christian Jacques avec Bourville et Jean Gabin, et puis un personnage exécrable, comme il l'est joué, admirable, interprété par Louis de Funès, enfin, dans un marché noir atroce. Une place de la Concorde sans éclairage, avec deux casques allemands qui passent là. Le retour de la propriété de mes grands-parents à la veille de la libération, où mon frère et ma sœur sont sur leur petite bicyclette, et moi je suis sur le porte-bagages de ma mère, qui a les sacoches pleines de ce qu'on peut rapporter de la campagne. La libération de Paris, j'ai beau d'avoir que 5 ans, ma mère m'emmène, que nous nous retrouvons au moment où il y a des tirs qui partent de la rue de Rivoli, et que à peine ont-ils cessé, que donc nous sommes sous les chenilles d'une automitrailleuse, à peine ont-ils cessé que ma mère veut prendre des photos, que mon frère et ma sœur ramassent les éclats d'obus qui sont à côté, et moi, on me dit évidemment, toi le petit, tu restes dessous. Et puis, les chars de la 2e DB qui s'arrêtent dans la rue dans laquelle nous habitons, à ce moment-là, ma mère, mon frère et ma sœur sont partis voir plus près des barricades. C'est les premiers sucres d'orge, les premiers bonbons que je vois. Et quand ils rentrent, je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez été faire dehors? Tout se passe ici. » Oui, et puis des souvenirs marqués aussi par le fait que mon père a été fait prisonnier avec la première armée française sur les îles de Hollande, et qu'il va revenir, un des derniers, puisqu'il aura rapatrié son camp avec un ami, fin mai 45. Et pendant toute cette période, eh bien, je le considère comme un héros. La seule chose que j'ai à ma disposition, c'est une photo de lui prise dans son camp de prisonniers. Et donc, ben voilà, il est fait prisonnier, j'ai 6 mois, il rentre, j'ai 6 ans. Et j'ai une mère qui est amoureuse de son mari. Et évidemment, mon père que je ne connais pas est un héros. Donc, mon héros absolu, c'est le général Leclerc. Donc, des souvenirs très marquants. Et j'étais au cinéma, la réponse est non. Mon premier film viendra beaucoup plus tard.
Le cinéma, pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, est vivant et continue de vivre.
Oui, mais ça, moi, je ne suis pas informé de ça. Vous voyez, aujourd'hui, je suis tout à fait informé. Mais à l'époque, on n'emmène pas l'enfant que je suis, d'ailleurs, ni ma sœur, ni mon frère. Voilà, on ne va pas au cinéma parce que ben, y a beaucoup d'autres choses à faire. En revanche, mon premier film, je suis nettement plus âgé, ça doit être fin 46, quelque chose comme ça, donc j'ai 7 ans, et notre grand-mère nous emmène au cinéma, proche de la gare Saint-Lazare, où se joue La Belle et la Bête. C'est un choc inouï parce que je suis dans l'écran, tétanisé. Je suis avec La Belle et la Bête, et évidemment du côté de La Belle et pas du côté de la Bête. Donc je suis terrorisé, et je termine la séance à plat ventre entre les fauteuils. Enfin, je la termine pas tout à fait, puisque la fin, finalement, la Bête ne mange pas La Belle. Et donc, c'est un souvenir très, très, très marquant. Voilà. Parce que, au fond, quelque part, j'ai la chance d'avoir vu mon premier film relativement âgé, et donc d'avoir tout ce que peut apporter un grand film dans une salle de cinéma, l'émotion, et quelle émotion, voilà. Et le cinéma, dans la mesure du possible, c'est ce vers quoi il doit tendre. Donner des émotions, créer des émotions, susciter des émotions, et donc, à partir de là, le souvenir, la mémoire, et donc la réflexion.
Le souvenir et la mémoire, c'est aussi le souvenir d'un autre grand film qui vous a marqué, La Grande Illusion de Renoir. Expliquez-nous.
Bon, c'est très simple. Je viens de vous dire l'essentiel. Je suis un enfant qui découvre son père quand il a 6 ans. Pendant ces 6 ans, ben, on lui a parlé des prisonniers de guerre, des officiers prisonniers. Parce que mon père étant rentré le dernier, j'ai vu des amis de mon père rentrés avant. Pendant les 2 années qui suivent son retour de captivité, je vois beaucoup d'uniformes à la maison. J'entends parler de la vie dans un camp de prisonniers. Évidemment, des tentatives d'évasion. Il se trouve que mon père, donc après avoir été dans un camp normal, il était dans un camp de représailles. Dans les camps de représailles, il était encore plus difficile de s'évader qu'ailleurs. Et mon père avait été élu président du bureau des évasions. Donc, un film parlant de l'amitié entre officiers et prisonniers, des tentatives d'évasion, eh bien, dans la filmographie mondiale, j'en vois d'abord un qui s'appelle La Grande Illusion. D'abord, et je trouve que le sacrifice de Boieldieu pour Maréchal et ses amis, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, peut-être, chez l'être humain. C'est quand il sait se sacrifier pour le voisin. Et c'est un film, justement, où, comment dire, il y a l'élégance et il n'y a pas la barbarie nazie. Alors, il est sûr que c'est une vue un peu idéaliste, mais si à 6 ans, on n'a pas une vue idéaliste, alors quand l'aura-t-on? Et je l'ai gardé sur un certain nombre de sujets. Donc, oui, La Grande Illusion, sans aucun doute. Enfin, pour moi, c'est le plus grand film de Renoir. Après ça, il y en a qui préfèrent la partie de campagne, c'est une autre affaire. Enfin, moi, je n'ai aucun doute.
Vous nous l'avez dit, Nicolas Sédoux, vous avez fait Sciences Po, vous avez failli faire l'ENA. Vous travaillez quand même dans le service public, dans un service, un organisme qui s'appelle la C2I. Qu'est-ce que le service public, d'une façon générale, vous a apporté, qu'est-ce qui vous en reste?
Alors non, la C2I est une compagnie privée. Mais c'est une compagnie privée qui a un accord particulier avec l'État qui s'appelle le plan calcul. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des actionnaires privés qui sont, à l'époque, les quelques grands groupes industriels français, Schneider, à l'époque on disait Schneider, maintenant on dit Schneider, et puis ce n'est plus le Schneider d'autrefois, la Compagnie Générale d'Électricité et Thomson CSF. Mais cette société a été fondée parce que les Américains ont refusé de fournir à la France des supercalculateurs pour faire la bombe atomique. Et donc, c'est le plan calcul. Alors, est-ce que j'ai choisi cette société parce que je pouvais rentrer chez Breguet, je pouvais rentrer chez Matra? La vérité, c'est que l'entretien avec Jean-Luc Lagardère s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. Alors moi, j'ai revu Jean-Luc Lagardère par la suite, parce qu'à un moment donné, Gaumont, à cause de Jean-Luc Lagardère, a été actionnaire du Point. Les fondateurs du Point ont le sentiment un peu au cours d'un dîner, donc Jean-Luc Lagardère vient de racheter Hachette, et le Point est dans le giron d'Hachette, et au cours de ce dîner, ils ont le sentiment que il faudrait de temps en temps que le Point puisse être un peu au service de Matra, je dis n'importe quoi, mais on voudrait vendre des missiles à l'Arabie Saoudite, ce serait bien d'avoir des bons papiers sur l'Arabie Saoudite, et ça pour des journalistes qui avaient quitté Jean-Jacques Savant-Schreiber, parce qu'il le trouvait trop engagé en politique, c'était, bon. Donc voilà, l'armement et la presse, l'armement et une très grande maison d'édition, c'était peut-être pas tout à fait ma tasse de thé. Donc je choisis la C2I avec d'abord l'idée de ne pas retrouver des gens comme moi. Des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui ont fait du droit, et qui vont naturellement à l'époque vers la banque et l'assurance. Et ça, de ce côté-là, j'étais tranquille, puisque j'étais le seul diplômé d'études supérieures non ingénieur. Et c'est vrai que j'ai bien aimé cette idée d'être dans une société qui fréquentait les pouvoirs publics. Mais après ça, je suis passé dans une banque qui alors était totalement privée, vraiment, la banque d'investissement américaine. Il n'y avait pas le sentiment du service public.
Morgan Stanley.
Maison intéressante, puisque du réceptionniste japonais au partenaire le plus élevé, nous étions 167, il devait être 40 000 aujourd'hui. Parenthèse fermée, c'était pas la même époque, mais c'était une époque où chacun savait ce que faisait l'autre, où j'avais trouvé ça formidable quand quelqu'un devait être engagé, il y avait au moins quatre niveaux hiérarchiques qu'il voyait. Et j'avais été très surpris, c'est qu'en général, les avis étaient similaires. Soit on trouvait la personne très bien, soit quand il y en avait un qui disait « bon, là je trouve que… » C'est-à-dire qu'évidemment, on ne jugeait pas sur ses compétences. On jugeait l'être humain. Le jugement, au fond, toujours se méfier de la première impression, c'est la bonne, c'est vrai dans 99% des cas. Et donc, j'avais trouvé très intéressant que des gens différents, pas avec la même expérience et le même jugement.
De cette expérience américaine, vous tirez un autre enseignement, c'est celui qu'il existe encore de l'espace pour le cinéma, et vous tirez cet enseignement en creux du fait que les Américains regardent de plus en plus la télévision et se désintéressent de plus en plus du cinéma. Alors racontez-nous cet étrange paradoxe.
Je l'ai compris encore mieux avec le recul. Premièrement, aux États-Unis, dans ce qu'on appelle les dîners en ville, qui était une expression que j'aborde. À Paris, on parle de cinéma. Les gens cultivés parlent de cinéma. Ils parlent de Bergman, alors qu'ils ont été voir Belmondo, mais ça, c'est pas grave. Ils ont été voir Belmondo, et parfois, ils ont également été voir Bergman. Aux États-Unis, on parle pas de cinéma. New York, une ville probablement où il y a vraiment beaucoup de gens très cultivés, avec une immense diversité, eh bien, on parle de théâtre, on parle de littérature, on parle de peinture, je parle évidemment de toutes les discussions hors affaires, et on parle pas de cinéma. Deuxièmement, moi j'arrive là-bas en septembre 70, donc les seuls chiffres dont on dispose, c'est les chiffres de 69. 69, en termes de fréquentation, c'est la pire année pour les cinémas américains, hors Covid évidemment. Mais que regardent les Américaines et les Américains à la télévision? Que regardent les Français en France, les Anglais en Grande-Bretagne, etc. Ce qu'ils regardent d'abord, ce sont les films de cinéma. Puis aux États-Unis, évidemment, les matchs de football, et d'ailleurs en France aussi, les matchs de football. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Qu'on dise que le cinéma est en crise, il y a moins de spectateurs dans les salles. Bon, mais pourquoi il y a moins de spectateurs? Parce que ces spectateurs potentiels, ils sont devant le petit écran. Et le petit écran, que regarde-t-il devant le petit écran? Des films de cinéma. Donc c'est simplement qu'il y a, dans le système, il y a un loupé. Le loupé, c'est que les films ne sont pas vendus suffisamment cher aux chaînes de télévision. Mais ce n'est pas que le cinéma est mort. La télévision, elle vient de quoi? Elle vient du cinéma. Alors je sais bien qu'il y a eu une grande époque où la télévision voulait inventer un nouveau format. Le nouveau format, c'était de ressembler le plus possible au cinéma dans la fiction. Puis il y a toute la partie non-fiction. Ça, c'est un autre sujet. Les jeux et évidemment les informations.
Entre 70 et 74, comment en venez-vous à racheter Gaumont et à en prendre la tête?
Mon épouse connaît assez bien un personnage tout à fait atypique dans le cinéma français, qui est Jean-Pierre Assam. Jean-Pierre Assam est un peu plus jeune que moi, ce qui fait que je l'ai peu vu à Sciences Po. Lui, il sera admissible à l'ENA, mais il sabotera son oral. Et donc, il va se révéler dans le cinéma avec, en 18 mois à peu près, il va sortir des films aussi différents que « Nous ne vieillirons pas ensemble » de Maurice Pialat, qui vaudra à Jean-Yann le prix d'interprétation à Cannes. Et donner un prix d'interprétation à un film, c'est évidemment le film dans son ensemble qui est honoré. Peu de temps après, à Cannes de nouveau, « La grande bouffe » de Marco Ferreri, un immense succès populaire et un très grand succès critique. Et puis, pour reparler de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, des choix éclectiques, originaux, et il a une idée comme ça, donc c'est de racheter Gaumont. Alors, à l'époque, le statut de Gaumont va changer. C'est-à-dire que Schlumberger va racheter la compagnie des compteurs, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être en 1971, et que la compagnie des compteurs est le premier actionnaire de RTL et de Gaumont. Que Jean Ribou, qui était à l'époque le président de Schlumberger, a voulu, remettre un peu d'ordre là-dedans. Il s'est opposé au conseil d'administration de Gaumont, qui n'a pas voulu qu'on change le président. Donc, on y reviendra probablement tout à l'heure. Puisque le président qu'il souhaitait nommer, c'était Jacques Rigaud, qui a laissé un nom dans l'audiovisuel français en devenant par la suite le président de RTL pendant 20 ans, et que Jean Ribou détestait l'échec, et donc à ce moment-là, je pense qu'il était prêt à vendre, et comme j'étais prêt à acheter, l'affaire s'est faite. Jean-Pierre Assam m'avait convaincu que c'était une bonne idée d'acheter Gaumont, mais au moment d'acheter Gaumont, il n'a pas apporté un centime, j'étais donc le seul à acheter Gaumont.
Voilà donc à la tête de Gaumont. On reparlera évidemment de Gaumont tout au long de la semaine qui vient et notamment de ce que vous y avez accompli. Mais est-ce qu'après ce récit que vous venez de tisser, est-ce que vous avez percé le secret? Et par secret, j'entends le fait que vos deux frères, Jérôme Sédou, qui est long à la tête de Pathé, Michel Sédou, qui a accompli énormément de choses dans le domaine de la production cinématographique, comment se fait-il que vous trois, qui ne venez pas de ce milieu du cinéma, si je puis dire...
Ça, vous pouvez dire que nous ne sommes pas des enfants de la balle.
Vous êtes retrouvés, chacun, à des postes importants dans ce secteur, dans cette industrie.
Alors, deux éléments. Le premier, bien sûr, c'est que nous avons un tissu culturel, celui de notre éducation, qui est ouvert aux arts. Même si, quand mon père rentre de captivité, il dit « Geneviève avait élevé les trois aînés ». C'est pour ça que je vais parler plus dans ce domaine-là de ma mère que de mon père. C'est une femme qui a fait l'école du Louvre, qui est passionnée de peinture, passionnée d'architecture, et c'est notre terreau naturel. Deuxièmement, je pense qu'il y a le sentiment que je déteste ce pronom indéfini, on pense que le cinéma est mort. Et nous, nous pensons que le cinéma n'est pas mort. Ça, c'est le côté industriel, entrepreneuriat. Écoutez, c'est Michel le premier qui entre dans le cinéma, qui entre dans la production. Il va travailler notamment avec Maurice Dugofson et qui aura comme interprète principal quelqu'un que j'aimais bien, qui était Patrick Devers. Donc, c'est un choix personnel. Jérôme va être administrateur de Gaumont quand Schlumberger sera actionnaire à travers la compagnie des compteurs de Gaumont. Et je vais le remplacer comme administrateur. Je pense qu'il y a un terreau favorable. Voilà. Un terreau favorable qui est un terreau culturel favorable à un moment où la télévision, donc disons que nous sommes à la fin des années 60, au début des années 70, où la télévision prend de plus en plus d'importance, et où donc l'image prend de plus en plus d'importance, et où le cinéma le premier, mais la télévision continue, quelque part une sorte de synthèse de tous les autres arts. Mais moi je ne crois pas, sauf exception, qu'une vie soit sur les rails au départ. En ce qui me concerne, c'est sûr qu'il y a l'amour du cinéma, mais j'aurais tendance à dire que c'est tellement banal que n'a rien d'étonnant, et une opportunité. L'opportunité, c'est le fait que Jean Riboud, ayant échoué, au fond, dans la nomination d'un nouveau président chez Gaumont, est un peu écœuré, que par ailleurs, il a autre chose à faire, et qu'il a un candidat acheteur. Je n'aurais pas connu Jean Riboud, serait pas été Schlumberger à la tête de Schlumberger, eh bien, je ne serais peut-être pas rentré dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le cinéma et rien d'autre dans mon envie, alors là, qui était très clair, après avoir été chef du service juridique d'une société de 5000 personnes, avoir été analyste financier chez Morgan Stanley, donc une formation juridique et économico-financière pas trop nulle, j'avais incontestablement envie de créer une entreprise. Et là, quelqu'un fort intelligent m'a dit « Nicolas, c'est très difficile de donner la vie, je vous conseille d'en acheter une. » Bon, et que j'avais le sentiment, alors concernant le cinéma, indépendamment du fait d'aimer le cinéma, qu'il n'y avait aucune raison, compte tenu de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du fait que ce que regardaient les anciens spectateurs à la télévision étaient des films, il n'y avait aucune raison de penser que le cinéma était en crise, et puis c'était une crise qui était due simplement à un mauvais réglage des curseurs. Il fallait changer le curseur, ce qui n'était pas simple, puisque la télévision, à l'époque, je le rappelle, n'était que de service public. Donc c'est une discussion avec les pouvoirs publics.
Eh bien, nous essaierons, Nicolas Seydoux, de creuser ce terreau favorable et cette histoire tout au long de la semaine. Merci beaucoup.
Merci.
Et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, Quentin l'a fait avec Nicolas Seydoux. Réalisation Manouchak Fachaï. Coordination Daphné Abgral. Prise de son Hervé Dubreuil. Vous pouvez retrouver cette série et toutes les émissions d'À Voix Nue sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.